Les concerts sont des dates de l'histoire. Celle du 13 novembre 2015 en fait évidemment partie. Le Pop & Co du jour devient donc Pop & Live, parce que oui, qu'on s'y rende ou non, les concerts racontent l'histoire avec un grand H. La fin d'un monde, parfois, et le début d'un autre aussi. En 1963, la France entière découvrait une nouvelle créature, le jeune. Et ce fut grâce à un concert donné Place de la Nation à Paris par Johnny, Sylvie et Richard, puisqu'on appelait les yéyés par leur prénom. Des festivals hippies au rock de stade, en passant par les concerts caritatifs, nous arriverons jusqu'ici, en 2020, avec de la musique vivante regardée par écran interposé. Désormais, avec les salles fermées, ce sont les règles imposées par la pandémie. Mais confiné ou non, Pop & Co sera sur une plage de Corse, grâce à l'italo-franco-corso-disco d'une chanson signée Barbara Carlotti. Elle nous ouvrira les coulisses de son morceau Solenzara un peu avant midi. Pas d'avis de défaite, bientôt des victoires. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Au commencement était le concert de rock qui foutait les jetons. En 1961, le magazine 5 colonnes à la une se penche sur la question.
Vous l'avez deviné, c'est du rock qu'il s'agit. Du rock androle, comme l'appellent encore ceux qui ne le dansent pas. Pour ses fidèles, le dieu de cette religion nouvelle a un nom pour vous encore barbare, Johnny Hallyday. Quand il chante, les corps des spectateurs se tordent dans la salle comme sous le feu de 1000 soleils.
Quel âge avez-vous, Johnny Hallyday, exactement ?
18 ans.
18 ans. Vous chantez en smoking, mais vous continuez néanmoins à vous rouler par terre, par exemple. Ça ne vous paraît pas incompatible.
Je chauffe avec le public.
Oui. Mais pour vous, on a l'impression, on avait l'impression, en tout cas il y a quelques mois, que chanter, c'était plus une affaire de, comment dire, de véhémence corporelle. C'était plus le fait de vos bras, de vos jambes, de votre corps, que de la musique ou des paroles que vous chantiez.
C'est-à-dire que, je vais expliquer une chose, c'est que le rock, c'est les deux. C'est la chanson, d'une part, et c'est aussi le visuel d'un autre part. Parce que le rock, si c'est chanté sans visuel, ça marche pas, et si bien sûr c'est du visuel sans chanter, ça marche pas non plus.
Parce qu'il y a des manifestations dans la salle, les gens cassent des fauteuils, en tout cas ils en ont cassé. Est-ce que non, ça vous ennuie ou est-ce que ça...
Je vous dis une chose, c'est que des fois ce que racontent les journaux, c'est très exagéré.
Mais vous ne pensez pas que votre façon particulière de chanter, justement le fait que vous rouliez par terre par exemple, favorise ce genre de manifestation? Si non, vous chantiez comme une diva à la Scala de Milan, ça n'arriverait pas.
Non, d'accord.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes fatigué déjà?
Je sais pas quelle heure il est, mais je sais quel jour on est, le 22 juin 63.
Est-ce que vous êtes des vrais copains?
Et ce concert a lieu à Paris, Place de la Nation.
Est-ce que vous savez taper la robin? Est-ce que vous aimez le rock? Alors allons-y!
Oui, bonjour.
Voici Emmanuel Chirache. Il est journaliste et co-auteur de Live, une histoire du rock en public. C'est lui qui raconte à quel point ce qu'on appelle la nuit de la nation du 22 juin 63 a fait date dans l'histoire des concerts.
Même si elle n'a pas une résonance internationale, on peut dire que c'est en France que la première fois a eu lieu un rassemblement aussi massif de jeunes venus écouter du rock. Un chiffre fou parce qu'il y a plus de 200 000 personnes qui sont rassemblées sur la place de la Nation. Donc évidemment, ça ne s'était jamais vu pour un concert gratuit, avec quasiment aucune publicité, hormis sur Europe 1, qui était donc la chaîne de Salut les copains, qui organisait ce concert. Alors dès l'époque, on se rend compte que c'est exceptionnel, parce qu'il y a eu une revue de presse complètement folle sur cette nuit, évidemment plutôt pour en dire du mal, plutôt pour souligner des petites dérives qui d'ailleurs étaient franchement pas incroyables quand on a du recul aujourd'hui, et compte tenu de cette folie, parce qu'évidemment les organisateurs n'attendaient pas du tout autant de monde. Au départ, ils pensaient peut-être 50, 70 000 personnes grand maximum. Donc quand on en voit finalement 200, 250 000 qui arrivent, c'est un petit peu inévitable qu'il y ait voilà, des gens qui montent sur des voitures, etc.
Inter, actualité.
Au micro, Jean Armand Ladidi. À l'information générale, peu de choses à dire ce soir. Cependant, sur le cours de Vincennes, des places de la Nation à Paris, on dresse aujourd'hui le triste bilan de la nuit du twist.
Oui, une voiture entièrement disloquée, 9 vitrines brisées, 2 becs de gaz abattus par les fans qui s'étaient déplacés en nombre, on parle même de 200 000, on doit un peu exagérer, et qui ont applaudi Johnny, Sylvie et Richard. Les copains s'étaient même installés sur le store d'un café pour mieux voir le propriétaire de la brasserie des Colonnes, qui n'a plus de store, à attaquer en justice les organisateurs. Enfin, ce qui est plus grave, une jeune fille de 17 ans a été violentée place de la Nation. Elle a dû recevoir des soins à l'hôpital et le commissaire de police du quartier a ouvert une enquête.
Ça va jusqu'au point que Philippe Bouvard, qui est connu, qui n'était pas très vieux à l'époque pourtant, avait comparé ce rassemblement au grand rassemblement hitlérien. Voilà, ça paraît délirant, mais il l'a quand même écrit. Parce qu'on a une espèce d'impression de fanatisme, en fait. Voilà, il y a cette impression d'une jeunesse fanatique qui vient se masser, s'agglutiner. Et donc, c'est considéré comme décadent aussi, parce qu'il y a ce rapprochement des sexes, parce qu'il y a beaucoup de filles, beaucoup de garçons. Voilà, ça paraît très scandaleux à l'époque. Alors, il y a quelques voix qui s'élèvent quand même pour dire c'est l'expression d'une jeunesse légitime, notamment Edgar Morin qui a écrit un papier dans Le Monde qui est devenu très célèbre parce que c'est un peu lui qui invente le terme des yéyés. Il parle de cette génération yéyé. Il parle aussi beaucoup de l'utilisation du mot copain qui avait remplacé le mot camarade, peut-être que chez les jeunesses communistes on utilisait beaucoup. Voilà, là, tout le monde est copain. Il voit l'avenir, voilà, Edgar Morin. Là où les autres ont plutôt l'impression de voir une bande de jeunes délinquants se faire plaisir. Il y a aussi un jugement très péjoratif sur à la fois la musique, qui est très très déconsidérée. Hein. Le rock en France, c'est vraiment considéré comme une musique de sauvage, c'est pas de la musique. Donc ces relents pas très sympathiques, et en plus d'une jeunesse souvent de classe populaire, on va dire, parce qu'on est quand même à Place de la Nation dans l'Est de Paris. Les arrondissements autour, c'est la jeunesse un peu du 20e, du 11e, de ces arrondissements-là, du 12e évidemment, des banlieues, Montreuil, Bagnolet. Alors il peut y avoir des groupes de jeunes blousons noirs qui peuvent arriver, ça fait peur aux bourgeois et aux adultes, quoi.
Et maintenant, à titre tout à fait exceptionnel, France Inter bascule sur Europe 1.
Eh bien, je suis toujours dans la loge de Johnny Hallyday à l'Olympia. Là, vous faisiez des gammes, ça allait la voix ?
Ça a l'air d'aller, oui. J'ai pris des suppositoires, mais ça a l'air d'aller.
Bah dites-moi, quand on vous voit comme ça dans votre loge, vous avez l'air très civilisé et vous avez une magnifique chemise de smoking à jabot. Ça n'a rien à voir avec le rock'n'roll, tout ça.
Mais si, pourquoi pas. Le rock'n'roll, c'est une chose très, très civilisée.
Bon, en fait, écoutez, je vous laisse, je vois que votre impresario vous fait signe. À tout à l'heure sur la scène.
D'accord, à tout à l'heure.
Si vous cherchez la bagarre, vous êtes venu à la bonne place. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Et je n'aime pas beaucoup qu'on m'en remonte. J'avoue que la bagarre, je ne suis pas con. Ça me fait pas peur. Ouais, ouais. Je dirais même que j'aime cogner. C'est un plaisir. D'accord, les gars, je vais vous soigner.
Et pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique,
Mr. Dynamite, the amazing Mr. Please Please himself, the star of the show, James Brown and the Famous Flame. Hit it!
Le 24 octobre 1962, James Brown est sur la scène de l'Apollo Theater au cœur de Harlem.
I don't care about your pain.
Ce concert gravé sur disque va changer l'industrie en participant à la création d'un nouveau genre lucratif, l'album live.
I don't care, baby, about your faults. I just wanna about your faults.
On est sur quelque chose de très risqué à l'époque, hein, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'en 63, il n'y a pas beaucoup de gens qui font des disques live. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué d'enregistrer un disque live, alors qu'en studio, on maîtrise déjà plus de choses. Mais donc ce live à l'Apollo, c'était un pari, parce que finalement, non seulement un disque comme ça live, c'est pas évident à faire, et en plus, il n'y a pas de nouvelles chansons, il n'y a pas de nouveaux singles, donc on a l'impression qu'on prend un risque commercial. Donc quand James Brown il le fait contre l'avis de sa maison de disques. Du coup, c'est cette audace-là qui est payante, et c'est aussi le fait que l'album il a excellemment bien marché, tout de suite, il s'est beaucoup vendu. Et on va dire que c'est ça qui fait qu'on a eu des disques en concert, alors que peut-être ça aurait pris plus de temps autrement. En tout cas, ça a convaincu surtout les maisons de disques, quoi, que ça pouvait marcher.
I'm singing it for you too. And when I say something that makes you feel good inside, when I say that little thing, I say that little part that might sting you in your heart now, I wanna hear you scream. I wanna hear you say, ow! I wanna hear you say, ow! Say, I'll say, ow! And I believe my work will be done.
Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Parce que sachez que dans les années 60, pour les cris des filles, il y a du stock. Reste celui qui a popularisé le rock'n'roll dans le monde entier et qui apparaît tout de cuir vêtu. Pour un live à Vegas en 1969.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? I do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair?
Et là, Elvis vient de changer les paroles. Au lieu de dire « Regardes-tu par ta fenêtre en m'imaginant ?», il chante « Regardes-tu ton crâne en espérant avoir des cheveux ?» parce qu'il a repéré un spectateur qui portait une perruque dans le public.
You know, someone said, the world's a stage and each must play a part. Oh God. Oh man, I think. And I had no cause to doubt you. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome?
That's it, man.
France Inter.
14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Un pop and live qui célèbre les concerts ce matin parce qu'aujourd'hui nous en sommes privés et parce qu'il raconte nos drames autant que nos rêves.
It's been a real groovy day and a great evening, and here, let's bring on with a big hand, Mr. Otis Redding.
Samedi 17 juin 1967, Festival de Monterey, Californie.
Yeah. Est-ce qu'on peut faire un petit test micro?
Oui. Vous voulez que je dise quoi exactement?
Votre nom, votre prénom, ce que vous faites dans la vie.
D'accord. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Chirache. Je suis journaliste et j'ai écrit plusieurs livres sur l'histoire du rock pour l'éditeur Le Mot et le Reste.
Pourquoi c'est une rupture dans l'histoire de la pop, ce festival-là? Dans quelle mesure c'est la matrice des festivals qu'on connaîtra ensuite?
C'est tout d'un coup la scène pop qui se met en scène pour montrer sa toute-puissance au monde. C'est ici que ça se passe, quoi. Rassembler plein de gens d'un coup avec plein d'artistes, c'est une manière de théâtraliser l'importance qu'a ce genre musical. C'est la Californie. On a aussi une espèce de basculement géographique, c'est-à-dire qu'avant on était beaucoup dans le swinging London. Là, les groupes californiens commencent à émerger de plus en plus, notamment à San Francisco. Alors c'est Jefferson Airplane, c'est là c'est le tout début, mais Doors, etc.
C'est-à-dire qu'en fait, ce moment de concert marque un changement de la carte de la musique mondiale, parce que jusqu'ici c'était le swinging London avec Londres comme vraiment capitale culturelle mondiale, avec Pink Floyd, les Beatles, la mode avec les mini-jupes. Et là, la carte de la musique mondiale, elle se déplace du côté des États-Unis et notamment du côté de la Californie.
Oui, c'est ça. C'est aussi la naissance, d'un point de vue médiatique, du hippie qui existait déjà avant. C'est le symbole d'un mouvement hippie, son apogée. Et donc, il n'y a pas de débordement. Enfin, voilà, on est dans la contre-culture pacifiste. Les choses se passent très bien. Et encore une fois, c'est le coup de départ du Summer of Love. On a toutes les plus grandes stars de l'époque à leur firmament, Jimi Hendrix, certaines qui commencent aussi à émerger. On a aussi Otis Redding, et ça symboliquement c'est vrai que c'est important. Otis Redding qui vient jouer devant un public majoritairement blanc, donc on a le début de ce qu'on appelle le crossover, c'est-à-dire des artistes noirs qui chantent devant un public blanc. Donc effectivement on a une photo vraiment la plus jolie qu'on puisse avoir de ce mouvement hippie.
Thank you.
Et donc Woodstock sera le pendant de l'Est, hein. On sait la rivalité entre l'Est et l'Ouest aux États-Unis, mais sans Montré, il n'y a pas Woodstock.
Petit rappel des faits. Juin 1967, festival de Montré, soit une photo de l'utopie hippie. Août 1969, festival de Woodstock, soit une photo de ce qui reste de l'utopie hippie. Décembre 1969, festival d'Altamont, photo du cauchemar de l'utopie hippie.
And I'll try and stop it. Hey, people, sisters, brothers and sisters, brothers and sisters.
Ce soir-là, les concerts se déroulent dans la violence.
Come on now. That means everybody just cool out.
Les Stones sont sur scène et Mick Jagger appelle au calme.
Everybody be cool now, come on. All right?
Il y a eu 4 morts pendant le festival d'Altamont, dont Meredith Hunter, un afro-américain poignardé par un Hells Angels pendant le concert des Stones.
I think we're cool, we can go. We always have something very funny happens when we start that number.
Mais en même temps, ça pendait au nez du mouvement rock et pop, parce que la dégradation est progressive, quoi. Parce qu'on a des énormes rassemblements de gens, c'est presque un miracle qu'à Woodstock, il n'y ait pas eu plus de débordements. Enfin, il y a forcément un moment où quand on a des tas de gens qui sont évidemment très drogués, parce que c'est ça aussi, la prise de drogue se durcit, devient de moins en moins peace and love, plus avec un service de sécurité assuré par les Angels, qui, encore une fois, était quelque chose de commun, c'est-à-dire qu'on a pointé du doigt un peu l'Altamont, mais bon, les Angels sont le service de sécurité de tonnes de festivals, de concerts, et c'était réglé comme ça avec la communauté hippie en Californie. À Altamont, bah là, il y a un moment où ça déborde. L'ambiance électrique fait que il y a un jeune noir a une altercation avec un Hells Angels qui le poignarde et donc il décède dans l'ambulance.
Et les Rolling Stones se barrent.
Ça aussi, c'est une image terrible, qui part en hélicoptère, qui fuit un peu la scène de crime. Ça va être une image aussi qui va les poursuivre beaucoup. C'est le péché d'hubris, c'est-à-dire que les Rolling Stones n'ont pas pu participer à toutes ces grand-messes que sont Montré et Woodstock, pour diverses raisons. Ils n'ont pas pu être présents ni à l'un ni à l'autre, et ils ont voulu leur festival. C'est péché d'orgueil, pour montrer aussi l'importance qu'avaient ces festivals. Ne pas y être pouvait être vécu comme une immense frustration, parce qu'on savait que symboliquement on allait passer à côté de quelque chose si on n'avait pas été ni à Woodstock ni à Montré.
Dans les années 70, les concerts vont devenir des tribunes politiques. La plus célèbre s'appelle Wattstax. En août 1972, le festival de Wattstax commémore les émeutes qui ont embrasé le quartier de Watts à Los Angeles, et Wattstax crie haut et fort la fierté afro-américaine. Dans les années 70, ces prises de position politique vont laisser place petit à petit à des concerts caritatifs. L'argent récolté est reversé à différentes causes. En août 71, George Harrison organise le concert for Bangladesh au Madison Square Garden de New York. Dans le même esprit a lieu le Live Aid en juillet 1985 au stade de Wembley à Londres. À vous, Patrice Blanc-Francard, envoyé spécial des Enfants du Rock à Wembley.
Bernard Lenoir est à côté de moi.
Copilote à pilote. Salut Patrice.
Salut Bernard. Et on est émerveillé. Jamais on n'a vu ça. Un stade qui normalement contient 80-90 000 personnes, on a pu voir à peu près 150 000 personnes. Et de l'autre côté, à Philadelphie, plus tard, il y aura à peu près 90 000 à 100 000 personnes au stade JFK, au stade Kennedy, à Philadelphie, pour ce qui est déjà l'événement au moins de ces deux dernières décennies sur le plan musical. Mais ça n'est pas seulement un événement musical. C'est un concert de rock un peu spécial. Et celui qui a monté cet événement média fantastique contre la faim et la famine en Afrique et en Éthiopie, c'est Bob Geldof.
Et donc, parmi les têtes d'affiche présentes à Londres, il y a Queen.
C'est un peu la photographie de l'apogée du rock de stade. Le rock de stade a formaté effectivement une certaine manière de faire du rock pendant les années 80, avec ses hymnes et aussi d'ailleurs même un genre qui s'appelle la power ballade, une espèce d'énorme ballade, vous savez, où les gens ont leur briquet dans le stade, la lune, et le font bouger d'une certaine manière. Même We Are the Champions, The Queen, c'est presque une power ballade.
Ouais, on les voit les briquets là.
Là, on voit les briquets, voilà. Aerosmith, Bon Jovi, voilà, c'est des groupes à power ballade. C'est marrant, c'est vraiment là, pour le coup, sans le rock de stade, ça n'existerait pas.
L'ampleur de l'espace où on donne des concerts finit par rejaillir sur la façon de faire des disques.
C'est ça. Le We Are The Champions, c'est pensé comme ça. Idem pour la phase B qui est We Will Rock You, c'est typiquement un truc qu'on peut chanter juste en tapant dans les mains. Donc c'est vraiment fait pour que la foule le chante.
Et je coupe le son. Le rock de stade finit par provoquer son opposé, un refus de la grandiloquence et des concerts comme des super productions hollywoodiennes. La chaîne musicale MTV emboîte le pas de cette réaction avec ses Unplugged, ses concerts débranchés. Nirvana s'est donc prêté au jeu, ça a donné Unplugged, album culte, publié il y a un peu plus de 20 ans. No. Nous sommes le 14 novembre 2020, 5 ans pile après les attentats aux abords du Stade de France, dans les rues de Paris, aux terrasses de cafés et de restaurants et au Bataclan. Rien ne sera plus jamais pareil, évidemment. D'abord, nous sommes retournés dans des salles de concert en passant quasiment les mêmes contrôles que dans les aéroports. Montrer patte blanche partout. Mais le public fut au rendez-vous. La communication politique parlait du « vivre ensemble ». Pendant les concerts, on l'a pas dit, on a fait mieux. On l'a vécu. Être avec des inconnus, à gueuler des paroles de chansons ou à sauter les bras levés dans la sueur et les postillons. Et puis la pandémie qu'on connaît est arrivée. Et les salles de concert sont fermées, pour une durée qu'on ignore. Le confinement 1, puis 2, a donc tout changé. Toutes les pratiques, jouer de la musique, la regarder et l'écouter. Accessoirement, ça a aussi changé notre façon de faire de la radio. Je vous parle depuis le studio 561 de France Inter. Et par le biais d'un logiciel, je débarque à distance chez Lou Doyon, qui est avec son fils.
Bon, hello ? Ouais. Tu vois mes écouteurs sur le bureau en haut ou pas ? Les gros ?
Ouais, ils sont là.
Allô ?
En mars dernier, pour le premier confinement, Lou Doyon a fait partie des artistes qui ont donné des concerts sur les réseaux sociaux. Elle, c'était Instagram, tous les jours à 17h. Au total, 58 lives d'une heure, avec 30 minutes de lecture, plus 30 minutes de musique. 6 mois plus tard, en ce samedi 14 novembre 2020, Lou Doyon est dans Pop & Co depuis sa cuisine.
Je vais mettre dans un endroit un peu peinard. Hop.
Il ne reste plus que le chien, tant qu'il ne décide pas de laper dans sa gamelle pendant une demi-heure. Mais non, on est bon. Pardon, vous disiez les concerts dans cet étrange confinement.
En fait, ce qu'on vient de vivre là, toutes les deux... Là, ça se passe pendant une interview, mais ça peut aussi se passer pendant un concert, cette intrusion du quotidien.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a, il y a une part du mystère qui s'en va, bien évidemment. On est dans notre intimité, on est surtout avec une intimité que certaines personnes partagent moins que d'autres. Il y a des rituels pour monter sur scène, il y a des rituels du déplacement déjà, le rituel d'une équipe, le rituel de la lumière, d'une distance quand même entre les gens. D'un coup, c'est les parois, les territoires deviennent extrêmement brumeux, quoi. En tout cas, les délimitations de territoire deviennent très opaques et il faut essayer de trouver là-dedans une limite.
Une nouvelle distance à trouver avec le public, en fait, quand on donne un concert sur un réseau social depuis chez soi.
Absolument. Alors après, moi, je vois que là aussi, il y a des générations. Hein. Donc, j'appartiens à une génération où finalement, j'avais encore un pied dans la jeunesse quand ces réseaux sociaux sont arrivés. Ce qui fait que j'ai un rapport à ça qui est assez étrange parce que je partage plutôt beaucoup de choses, une partie de mon intimité, mais c'est une intimité au travail de toute façon. Donc il n'y avait pas quelque chose d'une intimité où les gens auraient été surpris du manque de pudeur aussi, parce que c'est compliqué d'essayer de conserver de la pudeur dans ces histoires-là. Et je viens d'une famille, ce qui m'a demandé beaucoup de travail aussi, de compréhension, qui de toute façon, elle-même, a un rapport très étrange à qu'est-ce qui est de l'ordre de l'intime et qu'est-ce qui est de l'ordre du public, finalement. Comme tout le monde, j'avais beaucoup d'angoisse pour mes parents, qui chacun était en isolement seul, et donc au bout d'un moment, j'ai inclus ma mère dans les lives, mais voilà, rebelote, elle est une personne publique, et elle a d'ailleurs un rapport au privé qui est beaucoup plus étonnant que le mien, qui est beaucoup plus des années 70, donc voilà, moi je la skypais de mon bureau, donc moi les gens n'ont vu que les bouquins derrière moi, finalement, et elle était assez drôle, parce que je voyais bien que sur Skype, elle, ça la dérangeait pas, par contre, d'aller se faire un café, de se mettre à quatre tables sous la table à manger pour parler à son chien, ou voilà, des choses où elle est extrêmement drôle et sa fantaisie à elle, et pour le coup qu'il n'y a pas de frontières du tout.
Extrait du live de Lou Doyon le 24 avril dernier sur Instagram.
Hello, hello, bonjour, bonjour. On est mardi, il est 17h et aujourd'hui j'ai une surprise.
Je vais essayer de chanter cette chanson qu'on m'a demandé de faire à la grâce de toi. Je n'ai pas vraiment écouté cette chanson depuis des années, donc j'ai regardé sur YouTube. Je vais essayer de faire.
Jane Birkin.
Je peignais les yeux en qui je ne croyais plus, de m'avoir donné un enfant à garder une nuit. Pourquoi la grâce de toi me frappe en sommeillant ce soir? Ton visage avec les yeux clos me rappelle-toi dans mes bras. Pourquoi je te vois courir comme au ralenti, et des rires en écho des plages de l'oubli.
Thank you, maman.
Il y a évidemment un don de la part des artistes qui se mettent à faire des concerts ou à des lectures sur les réseaux sociaux pour les partager, mais c'est aussi un besoin du regard. Il peut y avoir un aspect aussi narcissique là-dedans.
Bien évidemment, bien évidemment. Je pense que
c'est loudoyant.
L'idée assez merveilleuse de traduire les choses littéralement et qu'en Canada, un selfie s'appelle un égoportrait, je pense que c'est un mot très, très important et qui dit exactement ça. Il y a quelque chose de l'ordre du cheval de Troie aussi par moment, qui est de se dire que si on attire l'attention sur une chose, ça nous l'amène sur autre chose et qu'au bout d'un moment, les gens suivent aussi. Moi, je vois, c'était flagrant au début sur les réseaux sociaux. Si je postais une photo de moi, j'avais tant de likes, et si je postais la photo d'un bouquin, je perdais environ 90% des likes. Et je suis assez heureuse aujourd'hui, notamment depuis les lectures pendant le confinement, d'arriver à des chiffres de plus en plus gros sur des photos de livres, sur des photos de conseils de bouquins. Donc, il y a quelque chose d'agréable aussi là-dedans, qui est qu'on trouve aussi son public.
So I drag myself to the corner cafe. And for a second I see you there, like in the good old days. And I wonder what you're doing, what are you up to these days? I sometimes wish you would call me, but then I wouldn't know what to say. Every cab that goes by, and the strangers at every crossroad, in every bar, I see you. In every cab that goes by, and the strangers at every crossroad, in every bar.
Pendant ce confinement, c'était absolument délirant de toucher des gens que je n'ai jamais pu toucher d'une autre manière. Je me suis retrouvée avec un fan club au Brésil. Je suis jamais allée jouer au Brésil. Mes albums sont à peine sortis là-bas. C'est un échange à tous les niveaux. C'est un échange d'ego, bien évidemment, qui va dans les deux sens parce que les gens vous suivent aussi sur les lives Instagram parce qu'ils peuvent mettre des commentaires, qu'ils peuvent être en interaction. Donc, c'est accepter que le public prenne une part beaucoup plus dominante, finalement, que pendant un live où on impose un peu ce qu'on a dit qu'on ferait. Je n'avais jamais fait ça. Au bout d'un moment, les gens me demandaient tellement des chansons du premier album, du deuxième album, du troisième album, comme si j'étais un jukebox, qu'au bout d'un moment, c'était assez agréable de le devenir. Ça m'a permis aussi de me libérer en chantant beaucoup de chansons des autres, qui était un exercice que je n'avais pas fait. Je m'empêchais de reprendre les gens que j'admire, ayant peur d'absolument saboter leur travail. Et puis en fait, au bout d'un moment, on se met à chanter une chanson de Souchon. Et effectivement, je suis pas la plus grande guitariste de tous les temps. J'avais jamais chanté en français, ce qui m'angoissait au plus haut point. Et puis au bout d'un moment, je me rendais bien compte qu'on s'en foutait totalement, parce qu'en fait, ça devenait comme une sorte de karaoké géant. C'est-à-dire que si moi je me lançais, si j'osais, si j'avais pas peur d'eux, les gens m'envoyaient des vidéos d'eux en train de chanter avec moi, les enfants s'y mettant aussi. Enfin, pour sûr que moi, ça m'aura appris beaucoup de choses, de désacraliser l'événement, d'accepter le live au sens pur, donc de se planter, d'assumer que les gens vous voient vous planter, vous tromper de niveau de capodastre, ne plus se souvenir de la mélodie. Voilà, c'était pas plus grave que ça. C'est-à-dire que d'un coup, au lieu d'être dans un truc de mon ego, de me dire mais voilà, mais qui je suis, mais est-ce que je peux, mais est-ce que je vais faire une meilleure version, une moins bonne, il y a quelque chose de très enfantin qui s'est placé, qui était ce n'est que de la musique, c'est pas grave. Et j'espère avoir donné voilà tout ce que je pouvais dans un moment comme ça. Comme pas mal d'artistes, on a par moment une sorte de prétention assez rare de se dire que c'était d'utilité publique, qu'on se devait de partager et de transmettre ce qui pouvait permettre de tenir. Oui, il y a quelque chose de civique là-dedans.
Je sais pas si j'avais mis les accords. On va regarder. Je vais essayer de m'en souvenir. Chut. Alors, comment ça fait? Comment ça fait? C'est quoi? Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. «
à demander leur avis à des tas de gens ravis, ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hachiches fumeurs, et il a dit: la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mets-moi quand je tiens, tiens, mets-moi quand je tiens. Là dans mes mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon amour. Et voilà, je dis rien.
Les dernières annonces gouvernementales n'ont pas parlé ni même évoqué la culture, salles de spectacle, de concerts, librairies. Pourtant, les artistes se réinventent avant même que le suggère le président. Concerts sur Instagram, donc, ou dans des jeux vidéo, ou en streaming payant, comme le fait Rodolphe Burger ce soir, à 21h, en direct depuis l'église de Saint-Pierre-sur-Latte, à Sainte-Marie-aux-Mines. Et les disques continuent à paraître, même au ralenti. Loudoyon avance désormais toute seule, sans maison de disque. Elle s'autoproduit. Ses nouvelles chansons paraîtront le 26 novembre. On peut déjà écouter celle-ci, Claim Me.
I've been running around, looking for me in town, hoping for something to sparkle my mind, cause I've been out of touch, lost within, bought without, I sit chain smoking. I am to the buzz. Yes, my laugh has turned fake and my tears have turned dry, but my bluff is so fair, no one takes the time. But you will rise, fly high and come crying me. Yes, you will rise, fly high and come crying me. I've been killing my time for too long, but no, I don't even know how to catch back with the flow right now. Nothing feels right and I'm glued to the floor, and everything I try I did better before. So I do and undo myself of a name, I tear off the mask and I put up with the fame. But you sure as flat. For something to sparkle my mind, cause I've been out of touch, lost within, bored without, I sit chain smoking and I empty the bars. Yes, my laugh has turned fake and my tears have turned dry, but my bluff is so fine, no one takes the time.
Si vous vous intéressez aux concerts et à leur histoire, Emmanuel Chirache, que vous avez entendu au fil de ce récit, est l'un des auteurs de Live, une histoire du rock en public, avec Guillaume Ruffat, Yves Jolivet et Christophe Delbrouck. Le livre a paru aux éditions Le Mot et le Reste. Des concerts France Inter continuent de vous en proposer. Hier, vendredi 13 novembre, la nouvelle scène du rap français était réunie dans une triple affiche qui comptait Loose and the Yakuza, Ichon et Gaël Faye. Le concert est en écoute gratuite sur le site d'Inter jusqu'au 27 novembre.
France Inter, Bob & Co, Rebecca Manzoni.
Une plage corse en soir d'été, c'est là que Barbara Carlotti va vous embarquer avec une de ses chansons, un peu avant l'heure du déjeuner. Mais maintenant, elle choisit un disque parmi tous ceux qu'Inter diffuse en ce moment, et on reste en Méditerranée.
J'ai choisi Andrea Laszlo de Simone, La Nostra Fine. C'est tout ce que j'aime dans la pop, c'est-à-dire une pop symphonique magnifiquement écrite, arrangée, en même temps des mélodies assez efficaces, le côté un peu pleureuse italienne de Andrea qui pleure ses peines d'amour et tout ça, et en même temps un côté comme ça, immensité en fait du son, vraiment de l'espace, et ce côté variété italienne des années 70.
Le ciel a la couleur des vacances et de l'été. Sur la plage, abandonnée, il y a Barbara Carlotti, autrice, compositrice, chanteuse.
C'est moi.
Son nouvel album, Au Corse, île d'amour, a paru le mois dernier. Elle l'a réalisé avec Bénédicte Schmitt.
C'est moi.
Toutes les chansons du disque commencent par des sons enregistrés en Corse, notamment à Poggio di Venaco, le village où Barbara Carlotti a de la famille, et où elle retourne au moins chaque été.
C'était primordial d'entendre du son de la Corse, le vrai son de la Corse, pour se libérer, parce que j'ai l'impression que là, on souffre cruellement d'enfermement, mais tout le temps, en plus, on nous en rajoute des couches. Et puis, c'est la nature, hein. C'est les petits villages, c'est pas du tout dans un terrain urbain. Et pour moi, effectivement, la Corse, c'était ça. Donc, c'est toucher des rochers chauds l'été et rester dessus, se lever sur des rochers. Enfin, c'est l'eau fraîche, c'est nager comme ça. C'est une sensualité, ouais. Et donc, on a capté des sons partout parce que Bénédicte, en fait, tu la mets n'importe où. Elle a un micro, mais elle a aussi des palmes. Elle peut nager et prendre du son en même temps.
Solenzara, c'est le nom d'un village au sud de la Corse. Et c'est l'une des chansons que Barbara Carlotti reprend sur son nouveau disque. Dans les coulisses de Solenzara, ce matin, c'est là qu'on va.
Nous nous sommes rencontrés sur la plage de Solenzara. Un pêcheur et sa guitare chantaient dans la nuit d'été. Dans la nuit d'été, sur la plage de Solenza, chaque soir on a dansé. Et le jour de ton départ, j'ai compris que je t'aimais. Quando bem
una nostalgia amara, come sono di guidara, o gore facce prima.
Qu'est-ce qu'elle représente cette chanson pour vous, dans votre vie, Barbara Carlotti?
Je pense que, en fait, la fois où vraiment j'ai écouté pour la première fois cette chanson, c'est une de Def Car, c'est Iggy Pop, en fait. Et je savais pas que c'était Solène Zara, moi. Et ce qui est génial aussi dans l'histoire, c'est qu'ils ne l'ont jamais déclarée comme telle et qu'il y a eu 20 ans de disputes entre avocats pour dire que ils avaient piqué la mélodie, en fait.
Démonstration. In the Death Car, chanson emblématique d'Arizona Dream, film de Kusturica, a donc piqué l'essentiel de cette ritournelle-là. À Solène Zara, tube corse qui s'est vendu à 3 millions d'exemplaires dans les années 60 et qui fut notamment interprété par Regina et Bruno.
Quando penso a Solène Zara, cadio lascia tu guarda, una nostalgia amara, come un suono di chitarra, ugoreva c'è trima, rive guri piscado.
Et il y en a eu plein d'autres, des chanteurs corses qui l'ont aussi chanté par ailleurs. Et en fait, c'est une chanson de nostalgie pure, de cette image un peu idyllique de...
Une sorte de paradis perdu.
De paradis perdu, voilà, c'est ça. Qui raconte comment Solène Zara est le théâtre de la beauté du soleil couchant, du petit pêcheur qui revient avec 1000 poissons multicolores dans ses filets, etc. C'est-à-dire que moi, quand je vais pas en Corse, bah, j'ai ce manque et j'ai envie de retourner à tel endroit... voir soit mes amis, soit sentir l'odeur du maquis, de l'immortel, de la myrte dans les buissons de myrte. Donc je comprends, moi, cette chanson intimement. J'ai pas... Voilà.
Et voici la toute première version de Solène Zara par Barbara Carlotti.
Quando pensa Solène Zara, qua di la chatou quella, una nostalgia amara, come suono di chitarra, o core facce trima.
Donc j'ai chanté la chanson très très mal encore, parce que en n'ayant pas travaillé l'accent et tout. Donc la première version de la maquette, est vraiment la prononciation est horrible.
Donc ça, c'est quelque chose que vous avez travaillé pour la chanson et pour l'album en entier?
Pour tout l'album. J'ai fait une sorte de réappropriation culturelle. Moi, mon père m'a pas appris à parler le corse.
Est-ce que la façon de chanter est différente parce qu'il y a du corse ou parce qu'il y a du français?
Avant que ça soit validé au niveau de la prononciation...
Bénédicte Schmidt, co-réalisatrice de l'album de Barbara Carlotti.
Il y avait une sorte de... pas de crainte, mais elle ne se lâchait pas complètement au niveau de l'interprétation. Et une fois qu'on avait le retour de la Corse qui disait « c'est bon », qu'on avait la validation du contrôle qualité familial, là, après, il y avait une liberté dans sa façon de chanter, d'interpréter le morceau.
Alors si on écoute la voix toute seule de la version finale, le refrain.
Ah oui, ça, ça va.
A Solène Zara, occhi d'acce felicità. A Solène Zara, più bene si può stare.
Et alors là, débarque une envie de disco italienne
ouais.
Ou d'italo disco.
Ouais. Donc ça, c'est la base que j'avais mise sur la maquette, qui était pour moi un peu un gimmick italo disco.
Donc la signature italo disco.
Ouais, voilà. Et après, on a mis après, on a fait une boîte à rythme avec Bénédicte. Et Bénédicte a rajouté des éléments de batterie pour renforcer la rythmique. Mais en fait aussi parce que moi j'ai vécu la Corse à plein d'aspects, c'est-à-dire à la fois j'adore cette nature sauvage, je vois très bien ce dont parle, ce côté un peu carte postale de la chanson d'origine, et en même temps moi j'ai vécu des fêtes, des boîtes de nuit sur la plage avec des lasers et de la musique électro, donc en fait moi j'ai envie aussi de ramener ma Corse dedans. C'est pas une Corse nostalgique des années 60 vu que je suis née beaucoup plus tard. Et puis surtout se dire il faut moderniser ces morceaux quand même, donc c'était aussi ça. Moi j'avais envie de faire un truc d'aujourd'hui, et comme là la mélodie elle a aussi quelque chose d'un peu sirupeux. On a envie aussi de lui ramener un peu comme ça de modernité qui va équilibrer un peu le morceau aussi. Il y avait cette histoire de, aussi d'emmener le morceau, de lui donner une sorte de ferveur, quoi.
Et pour la ferveur, il y a le piano d'Émile Sornin. Ce matin, Popenko est dans le cœur battant de Solène Zara, tube corse des années 60, revisité par Barbara Carlotti.
Il y a une frénésie en fait dans son piano, quoi. C'est un truc vraiment, tu peux danser comme un fou dessus, quoi. Et c'est un vrai piano un peu disco en fait, qu'on aurait pu jouer sur un autre titre. Et ça, je trouve que c'était hyper intéressant qu'on ait réussi à faire rentrer cette intensité-là dans le morceau, qui était très nu au départ.
Mais le début de la chanson, il est parlé. En plus, vous avez une voix assez grave. C'est hyper sexy, quoi. C'est-à-dire que c'est une déclaration d'amour à la Corse, mais...
C'est sensuel, ouais.
Nous nous sommes rencontrés sur la plage de Solène Zara. Un pêcheur et sa guitare chantaient dans la nuit d'été. Sur la plage de Solène Zara, chaque soir, on a dansé.
C'est un peu « on ira où tu voudras quand tu voudras » et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Il y a un peu ce truc genre... Ouais.
Il y avait beaucoup d'images.
Tu vois ce qui s'est passé. Il y a un truc un peu parodique, je pense, malgré tout. Enfin, il y a un truc un peu de clin d'œil à ce genre de chansons aussi qu'on parle et qui sont limite ringardes parfois, mais qui sont super, en fait. Moi, que j'aime vraiment bien. Le parler sur de la musique, j'adore, en fait. Avant de faire de la radio, je pense que j'avais pas conscience. J'avais pas ce truc un peu... Tout d'un coup, on peut vraiment jouer avec le timbre de sa voix, quoi. Et puis quand j'ai fait de la radio, je me suis rendu compte que à quel point ça pouvait avoir un effet sur les gens. Et même, on s'écoute dans le casque, en fait, à la radio.
Ouais.
Donc on s'écoute. Donc il y a un truc, effectivement, il y a un jeu avec son propre timbre, on peut vraiment influer dessus. Et ça, c'est un plaisir, ouais. Mais c'est un jeu, je sais pas, c'est même pas un jeu d'acteur. Pour moi, c'est un jeu de sonorité, en fait, avec sa propre voix.
Et le jour de ton départ, j'ai compris que je t'aimais.
Pescadori ritornando di Bisca c'è centomila gullori da facimili vittori che non li vanno vissà. A sole zara occhi da c'è felicità.
Corse, île d'amour, c'est le nouvel album de Barbara Carlotti. Si tout va bien, elle sera sur la scène de La Cigale à Paris le 30 mars prochain. C'est fini?
Oui!
Même pas vrai. Koy Nguyen réalise Popenko chaque semaine avec Jérémy Guillon ce matin. Ilinka Negulesco assure la préparation de l'émission et Jean-Baptiste Audibert participe à sa programmation. La semaine prochaine, Popenko sera Popen Jane Birkin et on entrera dans le labo de Philippe Catherine. À samedi! Dans le grand face-à-face aujourd'hui, Ali Badou, Natacha Polony et Gilles Finkelstein reçoivent Gérald Bronner, professeur de sociologie à l'université de Paris Diderot et auteur de « La démocratie des crédules ».